Entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Premier jour de notre série consacrée au prix du gratuit. Une semaine pour nous intéresser au paradoxe apparent de la gratuité en économie. Demain, nous reviendrons sur la question du travail gratuit comme nouvelle forme d'aliénation en compagnie de Maud Simonet. Puis nous examinerons avec Benjamin Bayard et Fabrice Rochelandais l'illusion de gratuité sur laquelle repose le modèle économique du numérique. Enfin, nous achèverons cette série par une discussion entre Paul Ariès et Paul Jorion sur l'hypothèse du gratuit comme remède aux errements du capitalisme. Mais tout de suite, nous partons vers le 19e siècle afin de retracer l'histoire contrastée du don et de la charité, car ce qui peut apparaître comme le geste gratuit par excellence cache en réalité des relations de pouvoir et parfois même de domination. Ainsi, pour l'anthropologue Marcel Mauss, le don implique toujours un contre-don, écrit entre le donateur et le donataire, une relation profondément économique. C'est cette relation que nous allons tenter d'expliciter pendant l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Avec nous aujourd'hui pour parler de la généalogie du don et de la charité, Jean-Luc Marais, maître de conférences honoraires à l'Université d'Angers, auteur notamment de l'ouvrage « Histoire du don en France de 1800 à 1939 » paru aux presses universitaires de Rennes. Avec nous également Fabien Robertson, professeur de philosophie en classe préparatoire à Caen et auteur de l'article « Mauss, une philosophie du don » publié dans le journal du Mauss.
Le lien que le don établit entre le donateur et le donataire est trop fort pour les deux. Comme dans tous les systèmes que nous avons étudiés, et même plus encore, l'un est trop lié à l'autre. Le donataire se met dans la dépendance du donateur. Le don est donc à la fois ce qu'il faut faire, ce qu'il faut recevoir, et ce qui est cependant dangereux à prendre. C'est que la chose donnée elle-même forme un lien bilatéral et irrévocable. Le donataire dépend de la colère du donateur, et même chacun dépend de l'autre. Don, donateur, choses données sont des termes à considérer relativement, avec précision et scrupule, de façon qu'il n'y ait aucune faute dans la façon de donner et de recevoir. Tout est d'étiquette. Ce n'est pas comme au marché où, objectivement, pour un prix on prend une chose. Rien n'est indifférent. Contrat, alliance, transmission de biens, lien créé par ces biens transmis entre personnages donnant et recevant, cette moralité économique tient compte de tout cet ensemble.
Jean-Luc Marais, Fabien Robertson, bonjour.
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 Nous entendions à l'instant une lecture de l'essai sur le don de Marcel Mauss, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Fabien Robertson, peut-être faudrait-il commencer par définir ce qu'est le don au sens où l'entend Mauss.
Eh bien Mauss, quand il écrit son essai sur le don, un écrit foisonnant et encore aujourd'hui d'actualité, il commence effectivement par essayer de circonscrire son objet. Et il a beaucoup de difficultés à le faire, hein, parce que les termes don ou présent, visiblement, ne lui suffisent pas. Pour le circonscrire, en fait, il va déterminer une triple obligation. Ce qu'il dit, c'est que dans la plupart des relations sociales, notamment celles de face à face, il y a l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre. Et dans le départ de l'essai, tout son objectif va être d'abord d'essayer de comprendre pourquoi, alors qu'apparemment le don est gratuit, eh bien en fait, celui-ci engage une sorte de dette. C'est-à-dire que quand on me donne quelque chose, finalement, je peux me sentir redevable et dans l'obligation de donner à mon tour plus tard. Et à ce moment-là, on voit que ce que recouvre le vocable don dans l'essai de Marcel Mauss, en fait, c'est une sorte d'échange. Mais attention, parce que ce n'est pas l'échange marchand. Ce n'est pas l'échange marchand parce que il n'y a pas de valeur établie, il n'y a pas d'équivalence de départ et surtout, il n'y a pas la garantie du retour. Je ne sais pas si je donne quelque chose à quelqu'un, s'il va me donner à son tour, et je ne sais pas non plus ce qu'il va me donner et le moment où il va me donner quelque chose.
Vous faites une différence entre l'échange et le don, notamment sur le fait que dans un échange, ce retour est formalisé par un contrat, qu'il soit écrit ou non, alors que dans le don, c'est vous appelez une obligation, et qui
Exactement.
Peut être à la fois beaucoup plus souple et beaucoup plus difficile à en sortir d'une certaine manière.
Vous avez raison, à la fois c'est une obligation et pas, je dirais, une nécessité ou une contrainte ou une garantie. Ce qui veut dire que charge à l'autre de répondre. Il est libre de répondre comme il l'entend, comme il le veut. Bon. Et donc, on a l'impression que le don est beaucoup plus libre que le contrat, finalement, puisque dans le contrat d'échange, j'établis par avance ce que j'aurai à rendre. Très bien. Mais d'un autre côté, le don va instruire une dette morale, en fait. Hein. Une dette morale, c'est-à-dire que je vais me sentir dans l'obligation très personnelle de donner à mon tour, à la personne qui m'a donné ou à quelqu'un d'autre. Et donc finalement, une bonne partie de l'essai sur le don tourne autour de cette question de la dette. Et de la dette spécifiquement morale et pas économique en fait.
Mais alors Jean-Luc Marais, si le don établit une dette et une obligation, on peut dire qu'il n'est plus gratuit ?
Est-ce que c'est vraiment la question pour celui qui reçoit d'abord ? Et puis ensuite, on peut considérer que moi je parlerai en tant qu'historien, que les partenaires dans cette affaire parlent de dons, mais ils parlent aussi de charité, ils parlent aussi d'assistance, ils parlent aussi de cadeaux. Ils parlent donc d'un certain nombre de phénomènes qu'ils identifient à ce que nous appelons le don. Enfin, ce que nous appelons le don, c'est quelque chose qui, au fond, globalise des comportements très, très divers pour ceux qui les pratiquent.
Mais pour comprendre donc la place du don dans la société, il faut aussi dépasser l'idée selon laquelle ce don appellerait une dette de manière unilatérale, réciproque, nécessaire, pour dire que ce retour du don peut survenir non seulement de la personne à qui on a donné, mais aussi de d'autres personnes du champ social. C'est une forme de relation sociale circulaire, comme le dirait Mauss peut-être.
Oui et non. On va tout dépendre des types de dons. Parce qu'en fait, si l'on regarde en histoire ce qui s'est passé, il y a eu à la fois ces dons qui sont des liens de personnes. Par exemple, les liens classiques du supérieur et de l'inférieur à qui on fait un cadeau. Mais en même temps, l'inférieur est tenu par ce cadeau. Donc il est d'une certaine manière dépendant de ce cadeau. Il y a ces dons-là. Mais il y a aussi des dons plus curieux, quand on donne, par exemple, pour des gens qu'on ne connaît pas directement, pour des gens qui seront plus tard à venir. Quand on donne, par exemple, pour créer un hôpital, une œuvre d'assistance, comme on le fait assez souvent au 19e siècle, ou au 18e siècle, quand on fonde des hôpitaux, on ne donne pas pour telle ou telle personne. On donne pour tous ceux qui, dans l'avenir, seront éventuellement appelés à bénéficier de ce don. Donc, voyez, le récepteur du don n'est pas forcément lui-même concerné. C'est pour une totalité, un ensemble que l'on donne.
Alors il y a cette idée de donner pour quelque chose qui nous dépasse, qui est plus loin que notre oui. propre obol peut-être, parce oui. qu'on va revenir dans un instant à cette idée presque qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on pense au don, à savoir celle de l'aumône traditionnelle, oui. Dans la société occidentale notamment. Mais il y a aussi cette idée qu'on va donner dans un espace social, en sachant que le retour qu'on va avoir n'est pas simplement un retour pécunier ou d'intérêt direct, mais ça va être l'ensemble de la société qui va nous le rendre par une forme de prestige ou simplement le fait d'avoir accompli une action juste. Fabien Robertson.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles, dans beaucoup de sociétés, le don est public. Il est publié. Ou alors il est fait devant une foule ou il est rendu visible devant tous les convives. C'est que, en quelque sorte, la personne qui donne va se payer directement, si je puis dire, en reconnaissance sociale. Elle va gagner ou conserver ou affirmer son prestige par la magnificence, par le faste du don qu'il est en train de faire. Ceci concerne bien sûr les dons entre personnes inégales. Du supérieur à l'inférieur. Mais on peut considérer que une des visées possibles, un des intérêts possibles du don, ce qui lui enlèverait sa gratuité, c'est qu'on y gagne du prestige. Là serait l'intérêt, un intérêt symbolique de reconnaissance sociale ou de prestige, effectivement.
D'ailleurs, dans certains cas sur lesquels on reviendra plus tard, les personnes qui vont donner vont convaincre leurs amis, leurs proches de donner elles aussi. C'est non seulement une façon d'amener de l'argent à la cause que l'on défend, mais c'est aussi une manière de montrer que soi-même, on a été le premier à s'engager pour cette cause, Jean-Luc Marais.
Mais on peut rappeler qu'au moment de la Révolution française, sous la Convention, Barrère dit « plus d'aumônes, donc plus, il n'y en aura plus, et plus d'hôpitaux ». Donc un autre système qui sera le grand livre de la bienfaisance nationale qui fait intervenir l'État. Mais plus d'aumône, parce que l'aumône, justement, crée une situation qui apparaît assez conventionnelle, absolument inacceptable. Ça ne marchera pas et on en reviendra vite dès le directoire à un système où l'État intervient de façon assez compliquée, assez variée. Mais vous voyez bien qu'il y avait, une vision très claire ici de l'aspect, pourrait-on dire, intolérable de l'aumône dans une une cité de citoyens égaux.
Fabien Robertson, vous évoquiez le fait que ce don et cette aumône se fassent entre des individus sur un plan d'inégalité, certes, mais pour autant, on peut dire que le fait de penser par la société par le prisme du don nous impose de dépasser l'idée par laquelle on analyse notre société actuellement et depuis Marx, on pourrait dire, qui est celle d'une société de classe, et même avant avec l'Ancien Régime. Une société de classe, ce n'est plus simplement d'un côté les pauvres, de l'autre côté les riches, d'un côté les prolétaires, de l'autre côté les bourgeois, mais ça nous oblige à repenser ce lien entre donateur et la personne qui reçoit ce don, et qui ne va plus simplement d'un côté les pauvres et de l'autre côté les riches.
Bah en fait, tout dépend, et on commence à y venir, tout dépend de quel don on parle. C'est-à-dire qu'il y a toute une différence, je pense, entre un don dont Mauss peut dire qu'il écrase ou qu'il aplatit. C'est-à-dire quand une personne ou un groupe social donne à une personne ou à un groupe social qui est dans l'incapacité de rendre. Et à ce moment-là, la première ou le premier va affirmer son pouvoir. Ça, c'est une première chose. Et ça peut rentrer dans des rapports de classe. D'accord ? La deuxième chose, c'est quand des gens, entre égaux, se donnent des choses. Finalement, ils s'échangent, par exemple, des services. Ils se rendent service, comme on dit. Et là, c'est pas le même rapport de don. Je pense qu'il faut nettement distinguer les deux. Maintenant, sur les rapports de classe, on peut aussi interpréter ça de deux manières. Il y a d'une part ceux qui ont plus, qui peuvent se sentir le devoir de racheter leur supériorité ou de la corriger en faisant des œuvres de bienfaisance, en ouvrant des fondations, c'est le cas de la philanthropie américaine. Et il y a d'autre part les ouvriers pauvres qui peuvent considérer que ce sont eux qui font les richesses, qui donnent à la société. C'est un peu ce que pense Marx en fait, et qui se font exploiter et qui vont considérer du même coup que cette bienfaisance qui leur est faite ne va jamais racheter le mal qui leur est fait dans l'exploitation. Et ça, c'est ce que va constater Marx, même s'il ne l'évoque pas dans les termes du don.
Mais on peut voir, la sociologie est parlante. À la fin du 19e siècle, un quart des donateurs ne sont pas imposables, ce qui veut bien dire que ces personnes qui donnent, on verra sous différentes formes, ne sont pas tous de riches rentiers.
Jean-Luc Marat. Ah non, il y a des donateurs de toute fortune, et de petites, et de grandes. Mais c'est un geste... comme le geste du paysan qui donne du pain aux pauvres du voisinage est fait par quelqu'un qui n'est guère plus riche que lui. Donc il y a des petits donateurs au sens économique du terme, mais qui sont en fait très nombreux. Et on sait bien, un phénomène assez classique, que les petites rivières faisant les grands fleuves, le système d'une aumône minuscule aboutissant à de grosses sommes est employé au 19e siècle pour des œuvres aussi bien religieuses que philanthropiques. Le don des pauvres, finalement, est aussi important que le don des riches, d'une certaine manière, puisqu'il aboutit à des sommes importantes.
Mais ce que vous nous dites dans votre ouvrage, c'est qu'on voit que non seulement à la ville, mais aussi à la campagne, ce que vous disiez, des paysans donnent aux personnes qui sont encore plus pauvres, ce qu'on appelle les indigents à l'époque.
Oui, alors l'aumône à la porte, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui ont leur jour de distribution d'aumône, car c'est souvent organisé comme ça, est quand même un phénomène que l'on retrouve à travers tout le 19e siècle. Autre type d'aumône qu'on retrouve également un peu partout en France, les aumônes que l'on fait à l'occasion des enterrements, ou plus exactement à l'occasion du service de huitaine qui suit l'enterrement, parce que l'enterrement est brutal. Mais dans la semaine qui suit, on annonce qu'on va donner du pain à la mémoire du mort. Et les pauvres le savent, le font circuler la nouvelle, et ils viennent nombreux. Donc on a ainsi un certain nombre de gens très modeste au fond, qui participe à un don, mais à un don au plus proche d'eux. Et la nouveauté, ça va être peut-être au cours du siècle de voir apparaître des dons qui ne concernent pas seulement les proches. D'ailleurs, ces dons envers les proches, la mendicité, sont mal vus par les autorités. Mais des dons qui concernent par exemple toute une ville. On voit des bienfaiteurs qui veulent agir plus collectivement, mais pas pour un monde très loin d'eux, mais le monde de leur ville, le monde de leur village, proposer par exemple des revenus pour que les bureaux de bienfaisance, qui sont l'institution qui existe, la seule officielle pour lutter contre la pauvreté, proposer que le bureau de bienfaisance agisse de telle ou telle façon en lui fournissant une somme importante qui permettra de fournir des vêtements à tel type d'enfant. Souvent on précise un petit peu une action particulière. On va donner à la ville pour qu'elle établisse une école, par exemple, car ça aussi c'est un phénomène qui est collectif et qui ne touche pas une personne particulière, voyez.
Mais pour revenir à cette à ce don presque premier du de l'obol, de l'aumône, de la main à la main, on voit des textes de l'époque qui disent qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour les pauvres parce qu'ils de toute façon ils trouveront toujours à la porte des paysans et d'autres personnes un petit pain et un fagot de bois, des éléments comme ça qui sont des éléments de base pour pouvoir survivre. Et on voit, on décrit même des circuits où le paysan sait que tel jour il doit frapper à telle maison.
Mais c'est un phénomène qui est efficace dans le monde rural, mais qui ne l'est plus dans le monde urbain. Il y a trop de pauvres en ville, et finalement, là, le système fonctionne pas très bien. Donc, il va falloir passer à autre chose, justement. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître non pas un état-providence, c'est pas du tout ça qui se passe au 19e siècle, mais une prise en charge minimum de la pauvreté, mais qui ne résout pas le problème et de la vieillesse et de la maladie. Les bureaux de bienfaisance assureront la nourriture des veuves, des enfants, des gens sans travail à cause d'une invalidité. Mais tout ce système n'aboutit pas, ne règle pas le problème de la vieillesse quand on ne peut plus du tout travailler et de la maladie ou de l'invalidité.
Donc il faudra passer à autre chose. C'est l'urbanisation qui remet en cause des formes de solidarité plus traditionnelles et qui oblige à réinventer solidarités collectives.
Pas les réinventer, mais les développer, parce que le système des hôpitaux, il est très ancien, il remonte au Moyen-Âge. Mais il était réduit, enfin, dans son volume d'action, enfin. Et le 19e siècle va voir se développer des hôpitaux. Dans les grandes villes, ils existent depuis toujours. Mais le problème, la nouveauté, c'est de voir les gens se mobiliser, les bienfaiteurs se mobiliser pour créer des hôpitaux dans des villes moyennes, mais même dans des petites villes, enfin, dans des, ce qu'on appellerait de nos jours, des maisons de convalescence, des choses comme ça, hein, mais des établissements qui sont proches des populations. Ça, c'est la nouveauté du 19e siècle.
Et vous évoquiez les enterrements ou alors ces cérémonies qui suivent d'une semaine ou d'un an, parfois la mort d'un membre de la communauté où les pauvres et les indigents vont se rendre. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que ce don, puisque la personne est décédée, n'est plus et donc n'a plus d'intérêt dans ce don qu'elle fait à la communauté? Est-ce qu'on peut parler du seul don absolument gratuit?
Non, il n'est pas gratuit parce que celui qui l'a prévu, qui l'a organisé, souhaitait bien à ce qu'on vienne à son enterrement. Il tenait à ce que des gens soient là et fassent, pourrait-on dire, son éloge.
Mais alors on peut avoir une forme d'intérêt rétrospectif.
Oui, bien sûr, mais enfin, il est mort. Hein. Donc il en profite après coup, pourrait-on dire. Mais ça fait partie. Un tiers des gens qui donnent au 19e siècle dans l'étude que j'ai faite, donnent en ayant souci de leur mémoire, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein, soit demandant que l'on vienne justement à certaines occasions sur leur tombe, soit que leur nom soit affiché sur l'hospice qu'ils vont créer. S'il y a un hôpital Boussicault à Paris ou un hôpital Necker, c'est bien parce que les créateurs de ces hôpitaux ont été les créateurs et ont demandé à ce que leur nom soit porté sur l'hôpital.
Là, on est sur des grands donateurs.
Oui, mais c'est la même démarche de celui qui le demande pour son village ou pour celui qui organisera une distribution de pain à l'anniversaire de son décès, à perpétuité, comme il le souhaite, pour rappeler son nom.
Mais alors derrière cette idée d'intérêt, Fabien Robertson, vous nous dites que le don lui-même est un pari. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi?
D'abord, j'aimerais revenir, oui, sur cette notion d'intérêt, c'est-à-dire que dans le cas là qu'on vient de voir, c'est-à-dire une sorte de don post-mortem, où on ne sera pas là pour bénéficier d'un retour éventuel, on est forcément obligé de se poser la question de l'intérêt. Il y a une solution qui lui a été offerte il y a très longtemps, c'est dans un cadre chrétien ou musulman, c'est-à-dire que on va donner sans chercher la gloire publique, sans vouloir sonner de la trompette, c'est la formule de la Bible, mais quand même avec cette idée que Dieu voit tout et qu'on pourrait en être récompensé. Mais dans la situation du 19e siècle, encore plus dans la nôtre, je pense que ça ne fonctionne pas, c'est ce que vous indiquez. C'est-à-dire que on est obligé de se demander pourquoi une personne va, au-delà de sa vie présente, vouloir faire quelque chose. À ce moment-là, on est peut-être dans l'obligation de penser au-delà de l'intérêt. Je vous lis quelques lignes des bienfaits de Sénèque, qui déjà avait vu le problème et qui déjà argumentait contre l'intérêt. Il commence par dire que si c'est l'intérêt, un vil calcul qui me rend généreux, alors je ne suis jamais serviable que pour obtenir ou échanger un service, etc. Et il donne un exemple, il dit « Et lorsque nous sommes arrivés au terme de la vie, que nous réglons nos dispositions testamentaires, n'est-il pas vrai que nous répartissons les bienfaits dont il ne nous reviendra aucun profit ?» combien d'heures l'on y passe, que de temps on discute seul avec soi-même pour savoir combien donner et à qui. C'est-à-dire que Sénèque, déjà, hein, et ça va être un livre, Les Bienfaits, qui va être beaucoup lu à la Renaissance, Sénèque va se servir de cet exemple-là, du legs ou du testament, pour dire, finalement, les hommes voient toujours au-delà de leur intérêt immédiat. Et je pense que c'est ce qu'il faut penser. Maintenant, pourquoi parler du don comme d'un pari ? C'est-à-dire que la personne, par exemple, qui va mourir...
C'est la même idée. C'est la même idée. C'est qu'il y a un intérêt, bien compris, mais qui n'est jamais certain.
C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire que quand je lègue ma fortune, pour peu que j'en ai une, à une œuvre de bienfaisance une fois que je suis mort, je fais un pari, effectivement. C'est-à-dire que je m'engage envers quelque chose qui me survivra. Comment comprendre cela ? C'est une vraie question. Et je pense que pour y répondre, on est obligé de se dire que une personne, durant sa vie, peut s'attacher à quelque chose, peut s'attacher à des œuvres, peut avoir amassé une fortune éventuellement, et y attacher à un tel prix qu'elle aimerait que cette œuvre continue après sa mort. Ce qui veut dire que son intérêt dépasse sa propre personne, en quelque sorte.
Mais ce pari ne s'applique pas que à un testament ou à quelque chose de post-mortem. Quand Exactement. On pense à l'aumône ou à l'obole, on est toujours dans l'espoir que ce don va impliquer un retour, qui va être peut-être simplement un remerciement, une formule de politesse, mais qui peut être aussi le fait d'attacher à son nom une forme de prestige d'une personne qui est, on n'a qu'à voir les philanthropes américains qui sont plus connus pour être des personnes philanthropes que pour des milliardaires et pour avoir une réussite sociale. Donc c'est aussi ça, peut-être le retour et le pari du don.
Oui, ça marchera tant que la personne est vivante. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle meurt... Peu importe le prestige qui reste associé à son nom, à moins de considérer qu'elle porte un nom dont elle a une fierté associée à une famille. Et à ce moment-là, on sera obligé encore une fois de penser l'intérêt au-delà de l'intérêt purement et simplement égoïste, de toute évidence.
On peut presque penser que c'est une forme d'investissement quand on pense par exemple aux familles Rockefeller ou des grandes familles, des dynasties américaines qui vont investir financièrement dans des grands dons de charité en sachant que leurs enfants bénéficieront du fait d'être connus comme une famille qui se soucie de son prochain. Etc. Donc ça, l'intérêt surpasse la mort du donateur.
À ce moment-là, il faut penser à un intérêt que celui de la famille, éventuellement. Mais ça ne sera donc pas l'intérêt égoïste, de toute évidence. Et d'autre part, pour qu'il y ait un investissement, ça veut dire qu'on va viser l'accumulation, ici par exemple, de capital symbolique, ce dont je ne suis absolument pas convaincu. C'est-à-dire que quand je lis le livre de Jean-Luc Marais, je m'aperçois que beaucoup donnent pour des œuvres dans lesquelles ils se sont déjà impliqués. Ce qui veut dire que ce qu'ils cherchent, c'est non pas, je dirais, le régime de l'accumulation, notamment capitaliste. Ce qu'ils vont chercher, c'est que des choses se donnent encore.
C'est pour la prolongation de leur action.
Exactement, oui. Et pour le dire avec une belle formule, c'est Bergson qui dit que l'essentiel d'une vie, c'est d'allumer des foyers de générosité. Que la plus belle vie, c'est celle-là. Et effectivement, je pense que c'est ce qu'ils font, pour certains, c'est-à-dire étendre leur générosité au-delà de leur acte initial.
Je crois que l'idée que leur œuvre va leur survivre, c'est ça, pour eux, le retour du don.
Pour autant, il reste peut-être toujours dans le fait même de donner cette logique d'espérer un retour. On a vu ça comme à Paris. Je vous propose d'écouter aussi ce qu'en disait Orwell dans son ouvrage Dans la Dèche à Paris et à Londres.
Vers 5h de l'après-midi, l'Irlandais me dit « Je connais un endroit pas loin, entre fil à l'œil, une tasse de thé et un petit pain. Esté, crois-moi, c'est du sérieux. Après, ils te font dire tout un tas de prières à la noix, mais merde, ça fait toujours passer le temps. T'as qu'à venir avec moi ?» L'endroit me fit penser à un pavillon de criquet campagnard. Une vingtaine de cheminots attendaient déjà à la porte. Il y avait parmi eux quelques clochards, dûment blanchis sous le harnais, mais la plupart étaient de jeunes gars du Nord, à l'air très correct, vraisemblablement des mineurs de fond ou des ouvriers de filature au chômage. La porte s'ouvrit bientôt, et une digne femme en robe de soie bleue, le nez chaussé de lunettes d'or, un crucifix sur la poitrine, nous invita à la suivre. La digne femme servit le thé, allant et venant, en proférant des paroles consolatrices tandis que nous buvions et mangions. Elle parlait de Jésus-Christ, qui avait toujours eu un faible pour les pauvres gens et les êtres frustres comme nous. Elle nous racontait combien le temps passe vite quand on est à l'église. Elle nous ennuyait à mourir. La cérémonie du thé achevée, je vis que les autres vagabonds échangeaient des coups d'œil complices. La signification de ses regards était claire. Y aurait-il un moyen de couper aux prières ? Quelqu'un remua sur sa chaise, sans aller jusqu'à se lever, mais en lorgnant ostensiblement du côté de la porte. La dame le foudroya du regard, puis déclara « Je ne pense pas que le moment soit encore venu de nous séparer. L'asile n'ouvre pas avant 6h. Nous avons le temps de nous agenouiller pour adresser quelques mots à notre Père. Je crois qu'après cela, chacun se sentira un peu mieux, n'est-ce pas ?
C'était donc une lecture par Cédric Fuentes de George Orwell. George Orwell qui nous explique qu'il lui fallait dire tout un tas de prières à la noix pour recevoir un vague morceau de pain et du thé. Jean-Luc Marais, n'est-ce pas ici la preuve caricaturale que le don n'est jamais totalement gratuit?
Oui, c'est une preuve caricaturale. Il doit décrire ici un asile de l'armée du salut, quelque chose comme ça. Enfin, ça ressemble tout à fait à ça. Même si l'armée du salut fait encore de nos jours un travail.
Il revient plus tard dans l'armée du salut qui les obligeait à une forme de discipline militaire et dans laquelle il se promet qu'il ne reviendra jamais.
Oui.
Car le fait de recevoir cette aide et ce don, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, car c'est trop difficile et il préfère aller tenter sa chance ailleurs.
Oui, bien sûr. Alors, c'est un schéma classique. Hein. Les donateurs, ont aussi l'idée pour certains d'entre eux, c'est pas le cas de tous, hein, qu'il faut sauver, au sens religieux du terme, ceux qui vont bénéficier de leur aide. Hein. Bon, et c'est un reproche que l'on fait, bien sûr, depuis le XVIIIe siècle à certaines fondations religieuses, religieuses et charitables. Hein. Bon, est-ce que c'est toujours le cas? Je crois que ça dépend beaucoup du donateur. Il y a aussi des donateurs qui prévoient tout aussi expressément qu'il n'y aura pas de religion dans les établissements qu'ils font créer. Donc, tout dépend, en effet, du donateur.
Fabien Robertson, sur ce fait qu'il y ait nécessairement un retour, si le don oblige à rendre, quelle différence faites-vous avec un échange marchand où l'obligation sera inscrite peut-être dans un contrat moral ou écrit, mais pour autant, la relation est la même, je te donne en sachant que tu dois me rendre. Quelle différence faites-vous ?
Il y a toute une série de différences, mais je crois qu'il y en a une essentielle pour reprendre la formule de Jacques Godbout et d'Alain Caillé dans l'esprit du don. Ce qui va compter dans l'échange don, pour peu que le don soit un échange, c'est ce qu'ils appellent la valeur de lien. Tandis que dans l'échange marchand, ce qui va compter, c'est la valeur de bien. C'est-à-dire que le principe même, le sens profond d'une relation de don et de contre-don, c'est d'ouvrir, de préparer, d'entretenir, ou parfois de réparer un lien. Ce qu'il montre assez bien, c'est que on peut ne pas répondre aux présents, aux cadeaux, aux attentions qui nous sont faites, hein, mais à ce moment-là, ça aura un sens clair, une signification obvie, c'est que on refuse d'être en relation. On peut être invité chez quelqu'un à plusieurs reprises, il finira par comprendre, si on s'y refuse avec plusieurs excuses, que finalement, on ne veut pas être en relation avec lui. Et dans une relation amoureuse, dans une relation d'amitié, dans une relation sociale plus développée, finalement, ce qui va faire circuler les dons, ou plutôt, ce que les dons vont faire circuler, ce qu'ils vont raffermir, consolider, c'est ce lien. C'est ça qui est fondamental. Tandis que dans l'échange marchand, le principe, c'est qu'une fois que j'ai acheté le bien que je souhaitais, que je désirais, je suis parfaitement quitte avec l'autre. Je n'ai pas besoin de rentrer dans des relations supplémentaires avec lui. C'est pour ça...
La relation s'abolit à partir du moment où l'échange est terminé. Mais pour Marcel Mauss, on peut même aller plus loin. Le don, non seulement pris comme l'aumône, mais plus généralement ce fait de donner, de recevoir et de rendre, est le lien essentiel de toute société. Et ce qui fait de Marcel Mauss il vante le don comme un élément qui permet de donner du sens justement à cet interrelationnel dans la société.
Je pense que c'est sa thèse la plus forte, en fait. Ce qui lui fait même écrire que le don serait le roc de la morale éternelle, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que finalement, ce qui fait la relation strictement morale et sociale entre les individus au sein d'une société ou entre groupes sociaux, ce sont ces relations de don. Ce qui veut dire qu'une société qui ne serait animée que par des êtres qui échangent au nom de leur intérêt égoïste ne serait pas une société véritable. Il poursuit en cela les intuitions de Durkheim, par exemple. Et effectivement, donc cette thèse forte, je pense qu'il faut l'assumer. Plus une société est capable de promouvoir, de garantir la capacité qu'ont les individus de se donner les uns aux autres, plus ce sera une société solide et solidaire.
Et c'est là que le travail de Marcel Mauss se transforme presque en combat politique, car il va lui-même être le militant de la promotion de coopératives, d'associations, mais aussi du système d'assurance sociale, qui tous permettent justement d'instaurer, peut-être de rationaliser ce don, et on verra plus tard comment est-ce que ça se forme par le biais d'associations, mais pour lui c'est essentiel à la bonne marche d'une société.
Et c'est tout à fait explicite. On a connu assez tardivement peut-être ses engagements politiques, mais ils étaient clairs. C'était un militant du socialisme qu'on peut qualifier d'associationniste, c'est-à-dire c'était un ami de Jaurès, c'est un des premiers fondateurs du journal L'Humanité. Et effectivement, ce qu'il défendait comme socialisme, c'est pas un socialisme d'État du tout, c'est le socialisme des corporations ou du travail coopératif, en fait, finalement. Et mais si on lit la fin de l'essai sur le don, la première conclusion, il est assez clair. D'abord, il commence par dire que la charité est blessante, que c'est pas la véritable morale du don, la charité. Et il continue en faisant la promotion des caisses d'assurance sociale, du travail coopératif. Et pourquoi lui fait-il ? Parce que finalement, si on veut voir un don d'égal à égal, un don où ensemble, les hommes mettent en quelque sorte dans le pot commun, pour récupérer ensuite ce qui leur convient en cas de problème, de vieillesse notamment, eh bien, il faut recourir à ce modèle du don. Comme lien social fondamental.
Oui, mais le problème, c'est qu'en France, l'État, d'une certaine manière, est intervenu dans tout ce domaine. Finalement, le système d'assurance, le système solidaire, il s'impose à côté d'un État qui a pensé pendant très longtemps, et au fond depuis la Révolution française, et peut-être même depuis la monarchie, que c'était lui le bienfaiteur suprême. C'était lui qui prenait en charge et l'assistance, et l'hôpital, et le soin des pauvres. Donc, et qui contrôlait tous ceux qui voulaient avancer sur ce terrain, parce que c'était son terrain. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. Seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Self-assured. Now I've changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me.
Entendez-vous l'écho ? Une émission présentée par Arjuna Andrade.
Toute la ruse des bonnes consciences bien pensantes et bien nourries revient à donner aux pauvres comme une gracieuseté ce qui lui est dû comme un droit, à lui faire en sorte généreusement cadeau de son bien propre. Le pauvre sera spolié, et de plus, comme on lui a fait croire qu'il n'avait droit à rien, il remerciera son voleur. Détroussé et reconnaissant, que dites-vous de l'opération ? Une si bonne affaire ne mérite-t-elle pas que le riche jette du lest et au besoin même reprise la guenille de son mendiant pour être sûr que son mendiant continuera de vivre déguenillé, l'habit en haillons et le cœur inondé de gratitude.
On entendait une lecture du traité des vertus de Vladimir Jankélévitch qui ne mâche pas ses mots. La ruse des bonnes consciences est de donner aux pauvres comme une gracieuseté ce qui lui est dû comme un droit. Voilà bien l'évidence, selon lui, que le don est avant tout une relation de pouvoir et même de domination. Jean-Luc Marais, est-ce que la manière de dépasser cette domination nécessaire du donneur vers celui qui reçoit, ça n'est pas de passer justement par des intermédiaires ?
Oui, alors intermédiaires, lesquels ? qui peut être intermédiaire entre le donneur et le pauvre.
On peut penser aux associations et plus tard à l'État qui se saisissent de...
En fait, il faut bien comprendre que l'État pense qu'il faut s'occuper d'un minimum, d'une façon un minimum, mais enfin, il faut s'en occuper des pauvres, de l'assistance. Le problème, c'est qu'il n'a pas de moyens. Les moyens, ce n'est pas l'impôt. On n'envisage pas, sauf des cas très limites comme les aveugles, les insensés, qui eux sont pris en charge par des institutions que l'État finance. Mais pour la grande majorité des malades et des pauvres, l'État n'a pas de moyens. Il fait confiance au système qui remonte au Moyen Âge, au fond, qui est que les établissements d'assistance, hôpitaux, maisons de retraite, on ne dit pas de maisons de retraite, mais hospices, ont un capital formé de dons accumulés, de dons qui remontent parfois au Moyen-Âge, et ces dons accumulés, qui continuent à s'accumuler au cours du 19e siècle, rapportent, comme tout capital, et c'est avec ce capital que l'on va assister pauvres, indigents, etc. Donc, on est dans cette logique. L'État ne fait pas jouer l'impôt pour ce genre de problèmes sociaux. Ça ne va apparaître que à l'extrême fin du 19e siècle. Auparavant, il laisse, au fond, la charité privée, comme on dit, mais qui est en fait semi-publique, charité privée, prendre en charge ce secteur de la vie sociale. Même plus que cela, il le contrôle. Car pour donner à un hôpital, pour donner à un bureau de bienfaisance, il faut que l'État autorise le donateur. Il faut que l'établissement soit autorisé à recevoir. Donc il y a un regard toujours constant qui est sous l'œil de l'État. C'est l'œil de l'État qui surveille l'assistance.
L'État se saisit donc de cette question de la charité et du don, mais cela passe tout de même dans un premier temps par des instituts, des fondations,
C'est plus compliqué que ça. Ce qui relève de l'État, bon, ça fonctionne de façon classique et, comment dire, dans la tradition médiévale. Hein, les grands hôpitaux sont les héritiers des hôpitaux du Moyen-Âge. Ce qui est nouveau, à la fin du 19e siècle, ça apparaît dans les années 1880, à peu près, c'est que justement, des philanthropes, alors voilà un mot que nous n'avons pas encore employé et qui pourtant a sa place dans notre sujet, des philanthropes ont l'idée, alors soit individuellement, soit collectivement, d'agir dans ce domaine de l'assistance, de la pauvreté. Et il faut donc, pour eux, obtenir une certaine liberté par rapport à l'État. Il faut pouvoir soit créer une association reconnue d'utilité publique, hein, c'est un terme qui est employé et qui est tout à fait significatif, reconnue d'utilité publique. C'est une institution privée, mais qui va être reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire que l'État va lui déléguer une partie de son action et aussi de son pouvoir. Il met en le surveillant. Et c'est donc là qu'on va voir apparaître des fondations, mais de façon très, très lente, parce que pour des raisons classiques et bien connues, la France est un pays extrêmement centralisé et toute initiative privée, même charitable, est finalement soumise au point de vue de l'État et au regard de l'État. Mais c'est vrai que le succès de ces fondations, pensons par exemple à toutes les fondations créées par Rothschild, enfin des fondations pour le logement, des hôpitaux, des fondations comme l'Institut Pasteur, hein, qui se préoccupe de la santé, toutes ces fondations ont beaucoup de succès auprès du public. Justement, ça c'est une nouveauté, c'est que les gens que nous évoquions tout à l'heure, les donateurs qui au départ donnaient à leur porte ou qui donnaient à leur ville, vont à la fin du 19e siècle et par des sommes très importantes, et ça concerne des grandes fortune, vont donner à ces nouvelles institutions que sont les fondations. Et là, il y a vraiment un tournant qui nous amène au monde contemporain. Mais ceci étant limité, évidemment, par le droit français, qui fait on a évoqué tout à l'heure les États-Unis, la situation est très différente en France. En France, on ne peut pas déshériter ses enfants, même pour une œuvre charitable. La loi, le code civil l'interdit. Donc, en France, les fondations sont, pourrait-on dire, ce qui reste quand on a d'abord transmis sa fortune à ses enfants.
Mais alors, cette manière de passer par des fondations, des instituts, comme vous le dites, c'est aussi, on peut dire que c'est une manière de rationaliser le don et l'aide et la charité collective. On avait un homme qui s'appelait De Gérondeau qui notait noté à la fin du 19e siècle que les erreurs de la bienfaisance publique avaient tendance à multiplier les indigents. Et donc, est-ce que c'est une manière de contrôler, par le biais de ces associations, mais aussi par l'État, de mieux contrôler et donc de ne pas faire se multiplier des pauvres qui seraient encouragés à la pauvreté par le fait qu'on les aide?
Oui, alors le problème des comment lutter contre la pauvreté est un problème que les gens du 19e siècle n'arrêtent pas de poser, parce que c'est pas un problème simple, et je crois que personne ne l'a vraiment réglé, même au 20e siècle. Donc, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de suggestions. L'État, disons, prend en charge un minimum, qui va d'ailleurs peu à peu s'élargir, c'est vrai, mais à chaque fois que l'État intervient dans un domaine avec efficacité, la charité privée ou le don privé s'en retire, et c'est normal, puisque l'État le fait bien. Et le don privé va se reporter vers d'autres domaines qui ne sont pas pris en charge jusque-là. Il y a une espèce de glissement. On le voit très bien quand on regarde certaines fondations qui peu à peu disparaissent parce que leur objectif est rempli par l'État. Par exemple, ce qui concernait l'enfance a longtemps été l'objet de fondations spécifiques. Les enfants n'avaient pas vraiment leur place dans l'hôpital classique. Petit à petit, l'État va créer des secteurs pour enfants dans les hôpitaux. Mais on voit à ce moment-là les fondations se tourner vers d'autres secteurs qui sont mal pris en charge, comme certaines maladies qui sont, par exemple, à l'époque apparemment non guérissables, comme la tuberculose. Et on voit apparaître à ce moment-là des fondations spécifiques pour ce type de maladie. Vous voyez qu'il y a une espèce de remplacement de l'État vers des secteurs, dans des secteurs où il n'est pas compétent, où il n'est pas encore compétent.
Donc on a un mouvement qui va dans les deux sens, oui, si on peut dire. Ah. Et l'une des manières de se financer pour ces fondations et ces associations, etc., ce sont notamment des événements ponctuels, des grands événements de bienfaisance, notamment à la fin du 19e siècle. Je vous propose d'écouter ce son qui mentionne la question du bazar de la charité, grand événement de bienfaisance de la fin du 19e siècle, avec les fins tragiques que l'on a pu connaître.
Primitivement, dans le local du bazar de la charité, situé rue Jean-Goujon, quelques élèves de Saint-Nicolas donnaient des représentations de tableaux vivants relatant les principaux épisodes de la vie du Christ. Nous avions tous, Saint-Nicolas, assisté à l'une de ces représentations. Pendant ce temps, un ténor chantait ces paroles qui sont, je crois, des extraits du Christ de Forêt. « Vous qui pleurez, venez à ce Dieu qui console. Vous qui souffrez, venez à lui car il guérit. » Ce qui signifiait bien le motif charitable de ces séances, qui devaient être payantes pour le public.
Nous avons devant nous un témoin, qui est une dame, Madame Fabienne Bouly, qui m'a écrit qu'elle était une rescapée du bazar de la charité. Alors, Madame, votre témoignage est particulièrement intéressant.
J'ai été au bazar de la charité, accompagnant une dame, Madame Legrand, et nous sommes arrivés devant cette salle de cinéma, qui se trouvait en entrant à gauche.
C'est ça, il y avait une salle de cinéma à l'intérieur
de ce hall. Et il y avait à la porte de ce cinéma un monsieur, très bien, très élégant, qui agitait une sonnette en cuivre pour dire que la séance allait commencer. Et j'entends, boum, dans ma vie d'enfant, j'ai dit, tiens, la fête commence. C'était l'explosion. Ah, Dieu. Et alors je lève le nez, et je vois des flammes, mais immédiate.
Jean-Luc Marie, on voit donc se développer, se multiplier, les kermesses, les événements philanthropiques. On peut penser aussi au bal des indigents du 15 février 1830. Toute la société, la bonne société mondaine se retrouve à ces événements pour reverser de l'argent aux plus
pauvres.
Oui,
c'est le... Il faut s'y montrer, hein, ça fait partie des devoirs de la vie mondaine, aller dans ses œuvres, payer largement, et puis ça la représente en effet des ressources assez minimes finalement pour les œuvres bénéficiaires, mais ça fait partie de la vie sociale, enfin au sens mondanité. Hein. Bon. La nouveauté, ça va être plutôt de donner à ces œuvres des ressources constantes et non pas des ressources fluctuantes. Et là, c'est là qu'on retrouve évidemment les grandes fortunes. Les gens qui ont beaucoup d'argent par l'industrie, par leur réussite industrielle, vont se tourner vers ces œuvres parce qu'ils y sont intéressés. Les scientifiques, les médecins prennent contact avec eux, les appellent au secours. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'évoquais l'Institut Pasteur, hein, où on voit les souscriptions très nombreuses affluer parce qu'il y a une sorte de communication, dirait-on de nos jours, de l'Institut Pasteur vers les grandes fortunes. De même, c'est un domaine qui n'est pas le domaine de l'assistance, mais qui relève aussi du don. La Cité universitaire de Paris a été créée par un industriel, Dutch de la Meurthe, parce qu'il avait fait fortune et il voulait faciliter les rapprochements entre étudiants de toutes les nations et c'est donc lui qui organise la cité universitaire avec ses papillons par nation. Donc vous voyez des grandes fortunes que l'on va essayer d'intéresser à cette action charitable ou humanitaire ou philanthropique, enfin, ou en tout cas d'intérêt général.
On a des grandes nouveautés du 19e siècle. Ça existait déjà, mais ça se développe sans fin. On peut dire que c'est la souscription qui, dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a un problème, on pensait à des inondations, à des tremblements de terre et autres problèmes, par exemple de choléra auprès des enfants. Oui. On organise une souscription.
Alors la souscription, c'est un peu, oui, en effet, une transformation de l'aumône à la porte, mais désormais, elle se fait l'aumône au journal, puisque ce sont les journaux qui lancent les souscriptions, qui publient les listes de souscripteurs, et ça c'est très important, parce que là on retrouve évidemment la publicité, et on voit ce poursuivant de journaux en journaux, de semaine en semaine, les listes de souscripteurs. Alors, pour des sujets extrêmement variés, hein, il y a des centaines et des centaines de souscriptions de caractère local, national, des catastrophes naturelles, des catastrophes industrielles, des inondations en France ou à l'étranger, des souscriptions politiques aussi, hein, pour la veuve du colonel Henri, celui qui s'est suicidé pendant l'affaire Dreyfus, mais aussi pour la famille Dreyfus. Enfin bon, il y a toutes sortes de souscriptions. La souscription, c'est l'accumulation des petits dons individuels et des gros dons, mais avec un aspect de publicité. Mais la suite de la souscription, ça va être au fond, d'une certaine manière, l'appel régulier à la cotisation des membres, ce que organisent peu à peu les sociétés philanthropiques. La philanthropie, c'est un mouvement qui naît dès le XVIIIe siècle, c'est un mouvement né des Lumières, et le but de la philanthropie, c'est, bah, selon les cas, par exemple, la philanthropie, ça peut être l'amélioration du sort des prisonniers. Il y a eu des fondations philanthropiques pour améliorer la situation des prisonniers. Donc, un objet d'intérêt général. Donc, des gens qui sont des militants, mais qui vont s'engager ensuite à financer régulièrement. Un petit peu comme lorsque vous êtes maintenant touché par une association humanitaire, vous renouvelez tous les ans votre don. Donc ça, c'est une sorte de rationalisation du don. Non pas attendre le coup de cœur, hein, qui fait que l'on donne et puis qu'on oubliera l'année d'après, mais créer un flux constant et régulier de donateurs. Fidéliser, comme on dirait de nos jours, les donateurs. Et ça apparaît dans les sociétés philanthropiques. De nos jours, on dirait organisation non gouvernementale. Mais c'est en gros un peu la même logique.
Fabien Robertson, on voit dans cette évolution, cette rupture même, on voit dans cette évolution quelque chose qui peut nous aider à penser Marcel Mauss, parce qu'on a d'un côté ce don de la personne à la personne et donc une forme de rétribution de soi à soi, à une logique où on va se présenter au monde dans des événements de bienfaisance avec toute la bonne société, etc. Tout d'un coup, la rétribution, elle est sociale, elle est extrêmement visible et extrêmement prégnante dans ces événements.
C'est-à-dire la rétribution obtenue par ceux qui font des balles.
Ça n'est plus la satisfaction de faire le bien en donnant une pièce aux pauvres, oui. C'est la satisfaction de se voir appartenir à cette société à laquelle on appartient et qui nous inclut.
C'est vrai que dans les fondations, on le voit aux États-Unis notamment, le but c'est quand même, par exemple, pour une fondation d'entreprise, c'est de se rendre visible, de se labelliser, et donc d'y gagner quelques publicités, et donc un retour sur investissement. Mais j'aimerais revenir sur ce que disait Jean Kelevich tout à l'heure, qui m'apparaît très vrai, même si c'est un peu cruel, c'est-à-dire cette idée que par la charité, on va redonner un peu dans la poche droite ce qu'on a pris de manière légèrement plus discrète dans la poche gauche. Ça revient à ce que montrait Karl Polanyi dans la grande transformation, c'est-à-dire que au final, l'émergence d'un capitalisme, je dirais, assumé, avec un véritable marché du travail, où le travail devient une marchandise, va encourager la charité. Pourquoi ? Parce qu'il va appauvrir les travailleurs pauvres. Il va faire en sorte que les salaires qu'ils touchent, il observe ça notamment en Angleterre, il va faire en sorte que les salaires qu'ils touchent soient plus bas que les besoins de la famille ouvrière. Et donc, que le reste du salaire, en quelque sorte, qui est indu, soit payé par l'Église. C'est ce que montre Polanyi. L'autre chose que montre Polanyi, qui me paraît très importante, c'est que ce marché du travail libre, disons, capitalistique, ne pourra s'instaurer qu'en mettant fin aux solidarités traditionnelles qui, elles, justement, fonctionnent sur la base d'un don réciprocitaire. Et Polanyi nous explique que ça a été d'abord mis en place en Europe auprès des travailleurs pauvres, et notamment en Angleterre, dès le XVIIIe siècle, et que ensuite, c'est ce qu'on va mettre en place dans les colonies. Et à ce moment-là, ce qui serait intéressant, c'est de se dire finalement, la question, c'est pas comment lutter contre la pauvreté, c'est de se poser la question de l'origine de la richesse et de la pauvreté. Et à ce moment-là, forcément, on aboutit à un questionnement, je dirais, plus politique. C'est pour ça que Mauss, au-delà de laisser sur le don, s'intéresse au militantisme socialiste.
Politique et même éthique dans le fait de se maintenir dans une situation de bienfaiteur, alors que c'est le système dans son ensemble qui maintient au contraire les pauvres dans leur situation de pauvreté.
Mais oui, je rajouterais que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État social, finalement, réduit volontairement ses moyens et du coup laisse de plus en plus de place à des associations qui sont obligées de régler le problème de la pauvreté, qui est de pire en pire dans nos sociétés, en lieu et place de cet État. Dernière remarque, quoi qu'on en dise, l'État a au moins une qualité, si vous voulez, c'est que la redistribution est impersonnelle, donc elle a plus de chances d'être juste. Si vous voulez. Tandis que la charité dépendra toujours un petit peu du bon vouloir ou du sentiment d'urgence ou des affects des généreux donataires. Ça ne veut pas dire qu'il appartient à l'État de faire la solidarité, mais ça veut dire qu'il lui appartient fondamentalement de la garantir. Et c'est là que l'impôt rentre en jeu.
Et l'impôt rentre en jeu pour permettre de prendre une forme de distance vis-à-vis de quelque chose qui était extrêmement personnel et individualisé, qui était soit le don de main à main, soit plus tard le don dans les espaces sociaux.
On n'a pas remercié l'État.
On n'a pas remercié l'État.
C'est le problème. C'est notamment le problème. C'est la qualité et le défaut de l'État.
Mais c'est aussi parce que le travail de l'État devient invisible et cela devient un dû d'une certaine manière. Qui fait disparaître cette logique du don dans les transferts sociaux,
sûr,
par exemple.
Oui, bien sûr. Mais pour ce qui en est de l'aumône, hein, il est sûr que le mouvement ouvrier à travers tout le 19e siècle, ce n'est pas son thème principal, mais la dénonce constamment. Hein, et dénonce toutes ces sociétés qui distribuent. Enfin, on a des textes, des canuts lyonnais, on en a partout. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que la classe ouvrière, même si le mot est un peu trop moderne pour le début du 19e siècle, s'organise dans un système mutualiste qui est très précoce et qui est à la fois mutualiste et société de résistance. C'est d'ailleurs pour ça que là aussi l'État regarde, parce que mettre en commun des fonds en cas de maladie et en cas de chômage, c'est bien, mais en même temps, ça peut être aussi des fonds qui deviennent des fonds de lutte en cas de fonds de grève, qui peuvent servir à faire durer la grève. Donc il y a un lien entre les deux qui oblige l'État, qui amène l'État à intervenir. Mais le mouvement mutualiste va être très important, hein, et on a oublié comment il a été important à la fin du 19e siècle, encouragé d'ailleurs par la République. Hein, la République de la Troisième, enfin, hein, qui n'est pas complètement indifférente aux classes populaires, contrairement à ce qu'on dit parfois, encourage très fortement la mutualité par des subventions, par des mesures législatives, etc. Et au fond, va encourager ce mouvement d'auto-organisation, hein, qui débouchera après avec de longues négociations lorsque l'État va intervenir directement dans le système des assurances sociales, parce qu'il va falloir combiner un système mutualiste qui était organisé par les donateurs bénéficiaires, puisque ce sont les mêmes qui sont à la fois contributeurs et bénéficiaires, et par l'État lui qui a d'autres ressources. Mais enfin, le mouvement mutualiste est de nature ouvrière. Il est fondamentalement ouvrier dans son démarrage.
Mais alors, l'analyse que vous déployez depuis tout à l'heure, on peut dire qu'elle est quand même tout à fait spécifique à la France et que quand on prend le cas des pays anglo-saxons, on est sur une situation qui est quand même relativement différente. On peut dire que c'est dans une certaine mesure lié au fait que l'État, de son héritage notamment révolutionnaire, se voit comme, sinon le seul bienfaiteur des plus pauvres, au moins comme le surveillant ultime de la bienfaisance qui se doit d'encadrer et d'accompagner ces...
L'État en France, enfin... Rosan Vallon l'a bien montré, l'État en France, il intervient tout le temps, il intervient beaucoup. Et d'une certaine manière, c'est dans ses gènes parce que l'État français, enfin l'État en France, s'est créé par la Révolution et par l'Empire, et d'une certaine manière, il s'est aussi un peu créé contre l'Église. Et donc, il y a une méfiance envers le secteur privé, mais qui est liée à cette crainte que le secteur associatif, que le secteur charitable, que le secteur qui s'occupe des plus pauvres et des plus nombreux soit pris en main par l'Église. Donc l'État est là pour défendre ses droits. Hein, bon. Et puis il y a un deuxième fait qui est très caractéristique de la France, c'est que la France a une structure familiale qui est très forte, où la solidarité au sein de la famille est extrêmement forte. En tout cas, c'est ce que disent tous les sociologues qui comparent les structures de la famille française avec les structures de la famille en Europe, en particulier aux États-Unis, enfin en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et la question, c'est qu'au fond, dans la société française, et là, l'État n'y est pour rien, mais en tout cas, c'est bien la réalité, et je crois l'avoir déjà évoqué, mais il faut bien comprendre que c'est très important pour tout ce qui est de l'aspect économique de notre débat de ce jour. Dans la société française, on ne déshérite pas ses enfants. On ne déshérite pas ses enfants, même s'ils sont des entrepreneurs qui ont bien réussi, même si on est un entrepreneur qui a bien réussi. Alors que Carnegie dit que faire hériter ses enfants, ça leur faire le pire cadeau. C'est les priver de ce dynamisme qui est celui d'avoir à travailler. En France, ça serait absolument impensable. Et lorsqu'il y a des débats autour de certains testaments, de certaines donations, le Conseil d'État défend cette vision qu'on ne peut pas priver ses enfants de plus de ce qui est la quotité disponible. Vous le savez, dans le Code civil, il est prévu de pouvoir utiliser une partie de ses biens pour d'autres que ses enfants, mais c'est très contrôlé et limité. Et ça, c'est une donnée française qui explique d'une certaine manière un petit peu le développement tardif des actions de type fondation. C'est bien là l'originalité de la France. Ça a changé à l'extrême fin du XXe siècle.
Nous entendons la charité de Gioacchino Rossini. Merci encore à Jean-Luc Marais et à Fabien Robertson d'avoir été parmi nous pour dénouer les logiques du don. Je rappelle vos ouvrages respectifs. Jean-Luc Marais, vous avez écrit « Histoire du don en France de 1800 à 1939 », publié aux presses universitaires de Rennes. Fabien Robertson, vous êtes l'auteur de l'article « MOS, une philosophie du don », publié dans le journal du MOS. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et bien d'autres disponibles pour l'éternité en podcast sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « Entendez-vous l'écho ?». Avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter dans le cadre de la journée spéciale que France Culture consacre aujourd'hui à Jean-Luc Godard, un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Olivia Gesbert et où il évoque la politique économique du gouvernement.
Tell me all these years you've waited. Tell me.
All these years I've waited.
C'est moi seul! Tout seul, vous entendez?
Transformer notre apocalypse en armée ou crever, c'est tout.
Sa parole est rare. Journée spéciale Jean-Luc Godard sur France Culture. Ses mots en partage.
Macron dit, on vous donne 10 milliards d'un coup. Bon, je ne sais pas comment il va les trouver, c'est Bercy qui s'arrangera. Mais il les a toujours pas donnés. Et puis les gens de BFM TV et de LCI disent, vous vous rendez compte, 10 milliards. Non, mais 10 milliards, si on le divise par le nombre de gens qui doivent le recevoir, parce qu'il y aura plus que les gilets jaunes, hein, à ce moment-là, 10 milliards, ça fait quoi, 50 euros. Donc c'est rien ce qu'il fait. Moi, si j'étais ministre là, mais heureusement que je ne sais pas, et si j'avais le pouvoir de le faire, ça serait comme un empereur romain qui vient fou comme ça, je dirais. On ne va pas vous donner 10 milliards, on ne va pas vous donner 100 milliards, on va vous donner au minimum 1000 milliards, et on divise. Ce qui fait que la semaine prochaine, vous avez au moins 1000 euros chacun. Je pourrais pas, parce que là, on serait on serait débarqué tout de suite, alors que Caligula ou Néron, on peut quand même faire un bout de chemin.